Voici les titres du journal.
Le Grand Conseil valaisan a accepté ce matin d'entrer en matière sur la troisième tranche de crédits supplémentaires et d'engagement décidé par le Conseil d'État en réponse à la pandémie. Des précisions dans ce journal en compagnie d'Yves Terrani en direct de Sion. Le Grand Conseil vaudois n'a pas voulu d'un projet d'école durable hier. Les députés ont rejeté un crédit de 7 millions de francs en ce sens. Accusé d'endoctrinement par l'UDC, le Conseil d'État devra revoir sa copie. Il va y avoir du mouvement à Monthey ces prochains mois. Plusieurs services de la ville vont déménager ou être regroupés sous un même toit. Un espace dédié à la culture et au tourisme va également voir le jour. Et en hockey sur glace, le Villardou Igor Jelovac s'épanouit à Rapperswil, avec qui il continue à surprendre de nombreux spécialistes. Bien installés dans le top 5 du classement, les Saint-Gallois sont prêts à revoir leur objectif à la hausse.
Le temps sera généralement nuageux pour cet après-midi et pour demain. Météo Suisse nous annonce du stratus jusque vers 1500 mètres d'altitude. Sinon, un temps assez ensoleillé. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Blom. Bonjour Valérie.
Bonjour Axel, bonjour à tous. 76,9 millions de francs, c'est le montant sur lequel le Grand Conseil valaisan a accepté d'entrer en matière ce matin, Yves Terrani.
Oui, il s'agit là de la troisième tranche de crédits supplémentaires et d'engagement décidé par le Conseil d'État en lien avec la crise sanitaire. Et sur ce montant, plus de 50 millions seront à la charge du canton, le solde devant être refinancé par la Confédération. Petit rappel, les tranches précédentes se situaient à hauteur respectivement de 122 et 213 millions, chiffre arrondi. Maintenant, il y a bien sûr eu discussion autour de cette troisième tranche ce matin. Le PDC du Valais romand s'est notamment inquiété de savoir jusqu'à quand le gouvernement cantonal pourra accorder des aides Covid supplémentaires, même s'il reconnaît que les crédits étaient légitimes et, comme l'a d'ailleurs souligné le député suppléant PDC de Champéry, Xavier Marietan, que ces aides ont permis à l'économie valaisanne de plutôt bien résister à la crise.
Le ministre de l'économie, Christophe Darbelay, a tout de même concédé que l'investissement est très important.
Oui, il l'a relevé en effet, mais le même Christophe Darbelay a tenu à rappeler que le canton a souvent anticipé et qu'il a été généreux avant même et plus que la Confédération, et que le gouvernement n'hésitera pas à consentir d'autres efforts, notamment en permettant à ceux qui n'ont pas pu déposer de demande de disposer d'un délai supplémentaire. Cela s'appelle le volet Covid-30. Nous avons pu sauver des entreprises, nous avons pu sauver des emplois, et cela n'a pas de prix, a dit l'intéressé que nous entendrons dans le club de Radio Chablais ce soir sur le coup de 17h. Christophe Darbelay encore, qui a précisé que les crédits complémentaires décidés au fil des mois concernaient les secteurs de la santé, de l'économie, de la culture, des transports et du trafic touristique. J'ajoute que la lecture de détails devant le Grand Conseil valaisan concernant cet objet aura lieu vendredi.
Et puis Yves, il a été question aussi ce matin de l'hôpital Riviera-Chablais devant le Parlement valaisan.
Et plus particulièrement des rapports annuels 2019-2020 et 2020-2021 de la commission de contrôle du HRC Vaud-Valais. Alors globalement, le sentiment général est plutôt positif. La situation financière de l'établissement hospitalier Valdo-Valaisan s'améliore. Les chiffres sont plus réjouissants depuis fin avril dernier, a-t-on appris tout à l'heure. Même s'il demeure dans le rouge, l'objectif consiste toujours à atteindre l'équilibre financier à l'horizon 2026. La gouvernance s'est améliorée, a-t-il aussi été constaté dans les travaux du Grand Conseil. Inquiétude, en revanche, pour l'explosion des budgets de rénovation-transformation des établissements de Monthey et Vevey, au point que la question semble se poser de savoir s'il faut aller au bout du projet Veveyzan. Pour Monthey, en revanche, elle n'est pas sur le tapis, visiblement, tant les travaux avancent à satisfaction, en croire le député suppléant PLR de Viona, Jérôme Guérin, président de la délégation valaisanne au sein de la commission interparlementaire de contrôle du HRC Vaud-Valais.
Yves Terrani en direct de Sion, merci beaucoup.
Le canton de Vaud veut sensibiliser les jeunes en formation aux défis climatiques.
Une démarche qui fait partie de son plan climat à 173 millions de francs. Mais hier, au Grand Conseil, les députés ont refusé en deuxième lecture d'accorder 7 millions de francs pour une école vaudoise durable. Un crédit rejeté à 74 voix contre 51 et 13 abstentions, faute de majorité qualifiée. Le Conseil d'État y croyait pourtant, à l'image de Cézla Marel. La conseillère d'État a détaillé peu avant le vote à quoi serviraient notamment 5 millions de francs destinés à des projets pilotes. Scolaire.
Alors l'idée, c'est de soutenir en fait des projets pédagogiques dans les établissements pour permettre aux jeunes en formation de mettre concrètement leurs connaissances et leurs compétences à jour, y compris professionnelles, et de faire en sorte que ces changements requis face aux défis climatiques puissent être compris. Et puis il y a toute une série d'actions comme le climaton des jeunes, des camps d'études sur les changements climatiques dans les forêts vaudoises. Il y a aussi la construction d'une machine par exemple qui teste les cellules solaires. avec évidemment des études par exemple sur la biodiversité. Et donc ces projets pilotes, ils ont vraiment pour but d'identifier les pratiques innovantes et de faire en sorte qu'ils puissent ensuite être généralisés dans l'ensemble des établissements vaudois.
La droite et surtout l'UDC a été très dure vis-à-vis du projet. Avec l'engagement de référents durabilité dans les établissements scolaires ou la mise en place d'outils d'enseignement, celle-ci craignait un endoctrinement des élèves. C'est le terme employé par le député villeneuvois Dylan Carlen.
On considère, nous, à l'UDC, que l'école a une mission première d'instruire les jeunes, les élèves, de leur apprendre enfin, des fondamentaux, culture générale, le français, les mathématiques, les sciences dures, etc. Donc ces éléments de base qui sont vraiment des outils utiles pour les jeunes, pour s'ouvrir toutes les libertés possibles en matière de formation dans tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau académique. Et on ne doit pas dériver de ce cap-là. Et à force de vouloir charger les cours, les programmes avec finalement des éléments de ce type-là, sur des questions de climat, de durabilité et autres, on met le doigt dans un engrenage vraiment d'une instrumentalisation de l'école. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut.
La ministre vaudoise a quant à elle pris l'exemple du Salon des métiers et de la formation qui se tient depuis hier à Lausanne. Dans le futur, de nombreuses compétences professionnelles seront réclamées aux jeunes en matière de développement durable. Au Conseil d'État désormais de revenir avec un projet qui pourra passer la rampe du plénum, un sujet de Joël Espy.
Cela ressemble à une success story.
Il y a 2 ans, 14 producteurs de lait, pour la plupart romands, lançaient la coopérative pour un lait équitable Fair Suisse. Le principe, même mettre sur le marché du lait suisse qui permettent aux producteurs d'être correctement payés pour son travail, soit 1 franc par litre. De quoi couvrir ses frais de production. À l'époque, il n'y avait que du lait entier vendu par un seul distributeur. Aujourd'hui, la gamme comprend du lait demi-écrémé, des crèmes à café, des fromages ou encore des mélanges à fondu moitié-moitié. Des produits vendus dans de nombreuses succursales du pays. En 2 ans, le succès est donc au rendez-vous. La vaudoise Anne Chevenard, présidente de la coopérative lait équitable et agricultrice à Corcelles-le-Jorat, fait le bilan de ce projet.
Je dirais qu'il a vraiment évolué au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer, parce qu'au départ, on pensait vendre entre 200 000 et 400 000 litres de lait par année. Finalement, la première année de commercialisation, on a dépassé 1 million de litres de lait vendus. Donc pour nous, c'est vraiment un succès qui est total. Au départ, on était 14. Aujourd'hui, on est 60. L'année prochaine, on sera une centaine. Donc il commence à avoir un vrai engouement des producteurs pour rejoindre notre coopérative. Puis surtout, on a pu entrer à la Migros, on a pu entrer dans des grands distributeurs nationaux. Donc ça montre qu'il y a une vraie demande des consommateurs. Ça veut dire que les consommateurs, finalement, ils sont prêts à payer un peu plus, pour autant qu'on leur assure que la différence va bien chez le producteur, puis pas chez des intermédiaires. Puis on voit que tout va de l'avant, que tout va en augmentant. Donc on a l'objectif de vendre 1 litre de lait par habitant à moyen terme. On espère atteindre les 8,5 millions de litres, parce qu'on estime que pour un ménage de 4 personnes, ça veut dire 2 francs de plus par année. Donc pour le ménage, c'est une somme qui est dérisoire, mais pour nous, les producteurs, ça peut vraiment faire toute la différence.
Depuis l'année dernière, la ville de Lausanne s'est engagée à se fournir en lait Fair Suisse pour sa restauration collective. Entre 2020 et 2021, ce sont plus de 78 000 litres de lait équitable qui ont été commandés. Anne Chenevard espère que ce partenariat avec la capitale vaudoise inspire d'autres collectivités. En attendant, elle se réjouit de l'intérêt que Fair Suisse engendre.
On a rencontré plusieurs fois déjà le canton du Valais, qui ont aussi des objectifs de durabilité dans leur alimentation et qui souhaitent créer un pôle logistique de distribution pour la restauration collective, et potentiellement on aimerait pouvoir placer notre lait équitable dans cette plateforme logistique. Sinon, on a aussi des belles synergies avec le canton de Vaud, donc notre lait notamment au CHUV ainsi que dans différentes institutions du canton de Vaud. On a des pourparlers avec les PFL, aussi avec des hautes écoles. On peut trouver notre lait notamment à Marcelin, on peut le trouver aussi dans les écoles d'agriculture valaisanne. Donc on voit qu'il y a quand même un engouement autour de ce projet, et puis que les choses évoluent dans le bon sens, puis qu'on est tourné vers l'avenir, puis on sait qu'il y a de belles perspectives qui se présentent.
Des propos recueillis par notre consoeur de LFM. Les membres de la coopérative sont pour les 2/3 romands, mais selon Anne Chenevard, l'intérêt grandit en terre alémanique et tessinoise. Pareil pour l'engouement des consommateurs.
Montais veut pouvoir mieux servir sa population.
Et par la même occasion, assainir ou transformer certains de ses bâtiments administratifs. Plusieurs projets de réaménagement et de regroupement ont été évoqués hier lors de la présentation du budget 2022. Les précisions d'Alexandra Claude.
Au chapitre des investissements de ce budget 2022, on trouve notamment un montant de plus de 2,2 millions de francs qui doit être injecté du côté de l'entrée sud de la ville et qui lancera une sorte de jeu des chaises musicales au sein de ses services. Les explications de Stéphane Coppet, président de Montais.
Tous nos services techniques vont se déplacer aux Ilettes, dans un bâtiment que la commune a racheté il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Les travaux pour le nouveau bâtiment administratif ont déjà débuté en 2021, vont se terminer au mois d'avril de l'année prochaine, et ça va libérer le bâtiment du Simplon, où se trouve actuellement une partie des services techniques. Et dans ce bâtiment, on va réorganiser le service jeunesse, sport et intégration, donc plus particulièrement le bâtiment Soluna et le bâtiment de la Maison du Monde. Et évidemment, un tel déplacement nécessite des travaux importants. C'est un bâtiment qui a un certain âge, donc que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau organisationnel, des investissements vont être réalisés dans ce bâtiment de l'avenue du Simplon.
Il est en revanche encore trop tôt pour savoir ce qui adviendra de la maison Soluna une fois la bâtisse libérée. Mais selon le conseil municipal, elle ne présente pas un grand intérêt ni architectural ni historique. Mis à part les services communaux, du changement est également prévu au nord de la ville. Comme déjà annoncé, le géant jaune quitte l'avenue du Théâtre pour l'avenue de la Gare. De quoi ouvrir de nouveaux horizons. On retrouve Stéphane Coppet.
Nous avons pris acte du déplacement de la Poste dans le M central. Nous avons acquis la surface de la Poste pour agrandir notamment notre médiathèque et regrouper notre service culturel. Donc effectivement, ça sera un élément important. Ça permettra d'avoir une ouverture plus importante, donc un meilleur service à la population pour à la fois la culture, mais également pour le tourisme, puisque Monté Tourisme va intégrer ses locaux. Et donc nous aurons réellement une véritable offre culturelle et touristique pour la ville de Monté.
Un projet de visée au total à près de 6 millions de francs, rachat des locaux compris. Près de la moitié seront déboursés l'an prochain.
Merci Alexandra. Et concernant le budget 2022 de la ville de Monté, il affiche un déficit de près de 5 millions de francs pour un total de charges de plus de 83 millions. Il sera aussi soumis au vote du Conseil général le 13 décembre prochain. Jusqu'au 19 janvier 2022, le groupe de jeunes vaudois La Voix de la Diversité lance une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux concernant le mobbing en apprentissage en partenariat avec l'association romande Ciao. Objectif, aider les apprentis à mieux se défendre face aux conséquences psychologiques et professionnelles de ce type de harcèlement. La 13e bourse vaudoise de compagnonnage théâtral est mise au concours. Dotée d'un montant de 90 000 francs sur 2 ans, elle vise à développer les compétences de metteurs en scène émergents. Le soutien s'adresse à toute personne formée dans le domaine du théâtre ayant au maximum 7 ans d'activité et 5 créations à son actif. Les dossiers de candidature sont à déposer auprès du service de la culture de la ville de Lausanne jusqu'au 31 décembre prochain. Les administrations communales, cantonales et fédérales pourront utiliser systématiquement le numéro AVS dans leur procédure dès le 1er janvier prochain. Le Conseil fédéral a fixé aujourd'hui l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur l'AVS. La révision de la loi entend éviter les confusions entre des personnes qui ont le même nom, le même prénom, la même date de naissance ou lorsque les noms sont orthographiés de plusieurs manières. À cette fin, les citoyens pourront désormais être identifiés au moyen d'un numéro unique, à savoir le numéro AVS. Festine Hoche a dévoilé aujourd'hui les premières têtes d'affiche de la 21e édition qui se déroulera du 9 au 12 juin 2022 sur les Jeunes Rives à Neuchâtel. Julien Doré et Véronique Sanson se produiront lors de la journée d'ouverture. Le festival accueillera aussi le slammer Grand Corps Malade. Lauréate de 2 victoires de la musique, Clara Luciani viendra défendre son nouvel album Cœur. Festine Hoche annonce aussi la présence du groupe anglais Royal Blood et du duo de musique électronique Justice. Après une annulation 2020, le festival a pu rebondir en 2021 avec Le Phare. Cet événement a permis de réunir plus de 6000 personnes autour d'une programmation 100% helvétique. Rien à voir toutefois avec une édition normale. En 2019, Festinoche avait attiré 50 000 spectateurs.
Deux oui et un non devraient sortir des urnes le 28 novembre.
Les derniers sondages donnent de confortables avances à plus de 60% pour la loi Covid et l'initiative pour les soins infirmiers. L'initiative pour le tirage au sort des juges devrait, elle, être rejetée. Les sondeurs n'excluent pas une surprise, en particulier avec une participation qui devrait à nouveau dépasser les 50%. Chiffres clés et analyses avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Réalisé environ 3 semaines avant la votation, les derniers sondages GFS Bern pour la RTS et du groupe de presse Tamedia donnent les mêmes tendances, même si les chiffres absolus ne sont pas identiques. La loi Covid, qui devrait fortement mobiliser, conserve un matelas solide de partisans, plus de 6 sur 10. Le oui à la loi s'appuie sur la majorité des vaccinés et sur une majorité semblable qui fait confiance aux institutions. On voit et on entend beaucoup les adversaires du certificat Covid et de la vaccination, mais une majorité plus silencieuse se dessine donc clairement. clairement pour le oui, même si, disent les sondeurs de Guy F.S. Bern, il ne faut pas exclure un renversement de tendance en fin de campagne. L'initiative pour des soins infirmiers forts fait un parcours atypique. Contrairement aux autres initiatives, elle garde un haut niveau de soutien au fil de la campagne, même s'il s'érode de 78 à 67% et cette tendance va se poursuivre. Toutefois, révèlent les sondeurs, un oui proche de 60% devrait sortir des urnes le 28 novembre. Une large majorité partage deux requêtes de l'initiative, que les adversaires ne contestent d'ailleurs pas, la pénurie de personnel infirmier et la nécessité de revaloriser les conditions de travail.
Pour qu'une initiative soit adoptée, elle a besoin aussi de la majorité des comptants. Et les sondages n'en disent rien, Serge.
Mais les chiffres des sondages ne donnent pas d'indice non plus qu'une majorité de cantons pourrait la rejeter. On gardera un œil attentif sur les régions conservatrices de Suisse alémanique où le non se renforce plus fortement. Un mot sur le troisième objet, l'initiative pour la justice et la désignation des juges par tirage au sort. Elle dispose d'un socle constant de partisans à un peu plus de 40%. C'est le nombre d'adversaires qui augmente à 50%. Il subsiste dès lors un peu de suspense, même si la tendance au rejet, comme pour 9 initiatives sur 10, s'observe ici aussi. Dernier point d'analyse, la participation. Elle sera une fois encore forte. C'est une constante réjouissante en 2021. Pourrait-elle influer sur le résultat et mettre par exemple en péril l'initiative pour les soins infirmiers? Les sondeurs estiment que non, parce que la mobilisation attendue contre la loi Covid devrait à l'inverse renforcer le camp du oui aux soins infirmiers forts.
Merci Serge pour ces analyses. Après avoir attendu des dizaines d'années, les couples homosexuels pourront se marier dès le 1er juillet 2022. Le Conseil fédéral a fixé aujourd'hui l'entrée en vigueur du mariage pour tous. Le 26 septembre dernier a été jour de fête pour la communauté arc-en-ciel. 2/3 des votants et tous les cantons ont approuvé le mariage pour tous. Face à ce résultat net, la ministre de Justice et Police Karine Keller-Sutter a voulu rapidement mettre en œuvre le projet. Les couples homosexuels pourront se marier ou convertir leur partenariat enregistré en mariage dès le 1er juillet 2022. La procédure préparatoire du mariage pourra même être débutée avant cette date. L'entrée en vigueur du reste du projet est prévue 6 mois plus tard. Il s'agit entre autres de la procréation médicalement assistée pour les lesbiennes. Elles pourront accéder aux banques de sperme officielles. L'épouse d'une femme sera automatiquement considérée comme le deuxième parent de l'enfant. Les dons de sperme anonymes, tout comme les dons d'ovules et la gestation pour autrui, restent interdits, et ce pour les couples homosexuels comme hétérosexuels. Outre ces deux points centraux, le projet prévoit aussi d'autres avancées comme l'adoption conjointe ou encore la naturalisation facilitée.
À l'étranger, 7 militaires de l'Azerbaïdjan ont été tués dans des combats.
Combats qui les ont opposés hier aux forces arméniennes près de la région disputée du Nagorno-Karabakh, a annoncé aujourd'hui le ministère azerbaïdjanais de la Défense. 10 militaires azerbaïdjanais ont par ailleurs été blessés dans des affrontements les plus violents depuis la fin d'une guerre entre Erevan et Bakou l'an dernier, selon la même source. Ces derniers combats illustrent l'équilibre précaire qui règne dans la poudrière du Caucase. Presque un an jour pour jour après la fin d'un sanglant conflit de 6 semaines entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au Nagorno-Karabakh. Pfizer demande l'autorisation aux États-Unis de lancer sa pilule anti-Covid sur le marché. Le dossier a été posé hier sur le bureau de l'Agence américaine des médicaments. Concrètement, cette pilule est un traitement antiviral qui peut être pris dans les premiers jours après l'apparition de symptômes du Covid. Elle aurait, selon Pfizer, démontré une efficacité de 89% contre les hospitalisations et décès lors d'essais cliniques. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'ouest du Canada ces derniers jours ont fait au moins un mort. Les autorités ont annoncé la découverte du corps d'une femme après un glissement de terrain sur une autoroute. Et les inondations, conséquences des intempéries, continuent de provoquer des dangers et dommages à travers la zone. Tous les services ferroviaires en provenance et à destination de Vancouver ont notamment été interrompus.
Le gouvernement irlandais a annoncé hier la mise en place de nouvelles restrictions.
Ceci pour enrayer une résurgence du coronavirus en Irlande et préserver le système de santé. Parmi ces mesures, le télétravail et un couvre-feu pour les bars et restaurants. Les personnes même vaccinées devront restreindre leurs mouvements durant 5 jours si elles ont été en contact avec une personne atteinte par le virus. Ces mesures entreront en vigueur demain à minuit. Le gouvernement britannique veut doper ses exportations. Il a lancé aujourd'hui un plan destiné à développer les aides financières et administratives. Il espère ainsi atteindre les les 1000 milliards de livres sterling de biens vendus à l'étranger. L'an dernier, ils atteignaient 600 milliards.
Des pluies diluviennes s'abattent sur l'Égypte depuis plusieurs jours.
Les intempéries ont fait 4 victimes mortes dans l'effondrement de leurs maisons. Ce sont d'ailleurs au total plus d'une centaine d'habitations qui ont été emportées par les eaux. Des eaux qui ont aussi fait sortir de nombreux scorpions de leurs trous. Plus de 500 Égyptiens ont ainsi été piqués. Aucun décès à la suite d'une piqûre n'a été enregistré. En tennis, Roger Federer ne reviendra pas à la compétition avant l'été 2022. Dans un entretien diffusé aujourd'hui par les journaux de Tamedia, le Balois explique qu'il serait incroyablement surpris de jouer Wimbledon. À 40 ans, l'ancien numéro 1 mondial se remet actuellement d'une lésion au ménisque interne droit. Selon ses médecins, il devrait pouvoir recommencer à courir tranquillement en janvier. À en croire l'homme aux 20 titres de Grand Chelem, les 4 ou 5 prochains mois vont être décisifs. Si sa convalescence se déroule au mieux, il espère encore pouvoir disputer un jour ou une finale dans un grand tournoi, mais il souhaite surtout pouvoir dire au revoir à sa manière.
En hockey sur glace, Rapperswil est en train de s'installer parmi les équipes qui comptent en National League.
Demi-finaliste surprise des play-offs la saison passée, la formation sagalloise a prouvé sur cette première partie de championnat que cette épopée ne devait rien au hasard. Après plus de 20 journées, les Lakers se sont bien installés dans le top 5 du classement. Membre de l'équipe, le Villardou Igor Jelovac est un témoin privilégié de l'évolution de Rapperswil. Désormais capable de rivaliser avec tous leurs adversaires lors de chaque match, le défenseur chablaisien et ses coéquipiers ont-ils dû revoir leur objectif à la hausse? La réponse d'Igor Jelovac.
C'est sûr qu'on est dans une bonne position. Après, voilà, on n'est qu'au milieu de la saison, si j'ose dire. Donc, ça va être encore long. Ça va devenir encore plus dur dans les mois qui viennent. Mais non, les objectifs ne changent pas. Nous, on avait pour objectif les pré-playoffs et une qualification en playoffs après dans l'objectif. Et puis là, on est sur la bonne voie.
Mais est-ce qu'on peut quand même dire que, comme on l'entend souvent, l'appétit vient en mangeant?
Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Nous, on n'a pas envie de s'arrêter là. Et puis, encore une fois, on sait qu'on en a les moyens. Et puis que. On est à 4 points du leader après 25 matchs, sauf erreur, et c'est pas par hasard à cette période-là qu'on est à cet endroit-là.
Des propos recueillis par Julien Traxel. Après leur victoire 2-1 hier soir à Bienne, Igor Jelovac et Rapperswil pointent désormais en deuxième position au classement, à égalité avec deux autres équipes. Ce trio accuse 4 longueurs de retard sur le leader, le HC Davos.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Estémédis, à la maison de santé de Colombey-Murat et son nouveau soin exclusif hydrafacial, le soin des stars. Estémédis.ch.
Le temps sera généralement nuageux sur la Riviera et la plaine du Chablais. Pour les portes du soleil, des ombres et le pays d'en haut, du brouillard en station avec un peu de bruine possible au-dessus de 1600 mètres. Vous aurez droit à un temps assez ensoleillé malgré des passages nuageux. Il va faire jusqu'à 9 degrés en plaine, 3 à 1000 mètres et moins 2 à 2000 mètres. Pour demain, un stratus nous est annoncé le matin jusque vers 1500 mètres d'altitude avec des chances de dissipation assez bonnes en cours d'après-midi au-dessus. Le temps sera directement en général ensoleillé. Il va faire de 2 à 9 degrés en plaine, de 0 à 6 à 1000 mètres et de moins 2 à 2 à 2000 mètres.